Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Belinda Bosuma.
Le mausolée de Patrice Emery Lumumba profané. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à l'échangeur de Limété à Kinshasa. Le ministère de la Culture condamne cet acte et promet de sanctionner les auteurs. Entre-temps, l'un des fils Lumumba, choqué, dit attendre voir les mesures que prendra le gouvernement et le chef de l'État à la suite de cet acte. État généraux de la justice. Après la clôture, les magistrats dénoncent la fraude et le faux dans la rédaction du rapport général de ces travaux. Les agents de police judiciaire, eux, saluent la réussite de ces assises. Satisfaction aussi côté syndicat des magistrats pour la justice. Et puis, quand on parle de la situation de l'Est de la RDC, c'est clair qu'il y a une agression. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des progrès par rapport aux discussions sur la situation sur le terrain. Déclaration de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC après son séjour au Nord Kivu, Nicolas Berlanga, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le mausolée de Patrice Emery Lumumba a été profané. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à la place de l'échangeur de Limété ici à Kinshasa. Les vitres du mausolée du héros national ont été brisées par des personnes non identifiées. Le ministre de la Culture et Arts condamne fermement cet acte odieux visant à désacraliser la sépulture du héros national. Il tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et que des mesures fermes seront prises pour sanctionner les auteurs de cet acte inacceptable, dit le ministère. Selon le communiqué du ministère de la Culture, toutes les dispositions nécessaires sont en place pour restaurer le mausolée dans les meilleurs délais. En réaction à la profanation du mausolée et de son père, Guy Patrice Lumumba, l'un des fils Lumumba, sous le coup de l'émotion, dit s'est posé des questions sur ce triste événement. Selon lui, la mémoire de son père qui s'est battu pour l'indépendance du Congo est salie. Il affirme attendre voir les mesures que prendra le gouvernement et le chef de l'État à la suite de cet acte. Guy Patrice Lumumba est joint depuis Paris par André Kitenge.
J'ai appris, comme beaucoup de Congolais, la profanation dont la famille est victime aujourd'hui au pays. La première question est toujours de savoir, depuis 64 ans que nous, les enfants de Lumumba, nous souffrons. On voit les images, que ce soit sur Internet, dans les télévisions, ainsi partout dans le monde, comment la mémoire de notre père est toujours salie. Ailleurs, il est honoré, mais dans notre pays, ça a toujours été la guerre. Et c'est de poser la question aux Congolais, qu'est-ce que mon père a fait contre les Congo, contre les Congolais. S'il s'est battu en oubliant ses enfants pour que les Congo soient libérés, j'attends à ce que le gouvernement et le chef de l'État puissent prendre parole et nous dire quelle est la suite qu'il va donner suite à cette profanation. Nous ne voulons pas tomber dans les provocations des uns contre les autres. Nous avons toujours été pour la paix, pour l'unité des Congolais. Les images que j'ai vues, vraiment, je suis profondément touché. J'attends à ce que le gouvernement nous donne, à travers les investigations, la suite à cet événement.
Et d'après le bourgmestre adjoint de la commune de Limété, non seulement les vitres du mausolée ont été cassées, mais le cercueil contenant la relique de Patrice Emery Lumumba a également été jeté au sol. Quant au sort de cette relique, la dent de l'ancien Premier ministre, on ne sait pas s'il s'y trouve encore, affirme Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de Limété. Il est joint par Babel Mpongo Masimango.
C'est aux alentours de 17h lundi 18 novembre que nous avons été alertés qu'un acte de vandalisme avait été perpétré dans le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba. Et je me suis dépêché sur le lieu et j'ai trouvé déjà le déploiement des services de sécurité faisant déjà des enquêtes et sur place, 4 personnes commises à la surveillance de ces lieux ont été interpellées, dont un policier. Et ce matin, il y a eu la police scientifique qui s'est pointée sur le lieu afin de poursuivre des enquêtes sur les débris parce qu'il a été constaté que la porte avait été délabrée, cassée, la vitre également, le cercueil à terre. Et la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est l'état de la dent. Et la police scientifique y était pour établir justement si la dent y est encore ou pas. Et nous attendons les conclusions que le parquet puisse nous dire exactement qui sont les auteurs et quelle est aussi la cause de la profanation de ce lieu emblématique.
Autre nouvelle, le président de la République a inauguré hier à Lubumbashi le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de Lubumbashi et d'ailleurs un ouvrage salué par les Louchois. Ces derniers souhaitent que ses occupants en fassent un bon usage, surtout sur le plan de sa maintenance. Pour Michel Kaboué, président de cet organe délibérant, ces meilleures conditions doivent être couronnées par un travail de qualité de tous les députés provinciaux. L'actualité, c'est aussi la fin de la mission parlementaire congolaise à Kampala. Du 12 au 18 novembre, les députés ayant pris part à cette mission ont remis leur rapport hier au président de l'Assemblée nationale, conduite par le député national Lambert Mende. Cette mission visait à échanger avec les autorités politiques ougandaises et le groupe d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie constructive pour la paix entre les deux nations. D'après la délégation de cette mission parlementaire, les relations diplomatiques entre l'Ouganda et la RDC s'avère éminemment stratégique au regard de l'étendue de la frontière que les deux pays partagent. Lambert Mende le dit au micro de Michel Kifindangoy.
Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière, l'Ouganda est le pays qui a la plus longue frontière avec la République démocratique du Congo, et que cela confère à nos relations avec ce pays un caractère stratégique dans la situation de déstabilisation actuelle que nous connaissons suite à l'agression injustifiée que nous subissons de la part d'un autre pays frontalier pour que nous puissions ensemble étudier les voies et moyens de ramener la paix et la convivialité dans la région des Grands Lacs. MOU sera certainement signé dans les prochains jours entre le président de notre Assemblée nationale et la speaker du Parlement ougandais pour formaliser cette collaboration qui va s'établir dorénavant entre les deux chambres législatives des pays frères que sont la République démocratique du Congo et l'Ouganda.
Notez que la présidente du Parlement ougandais, Anita Annette Among, à travers la délégation congolaise, a annoncé à son homologue Vital Kamerhe qu'elle va, dans les prochains jours, conduire une mission à Kinshasa pour faire suite aux échanges entamés avec la mission parlementaire congolaise qu'elle a reçue à Kampala. La délégation des élus nationaux congolais a aussi échangé avec le président ougandais, Yoweri Museveni, qui s'est dit très satisfait de cette passerelle établie entre les parlements des deux pays. Je vous le disais en titre, État généraux de la justice, les magistrats dénoncent la fraude et le faux dans la rédaction du rapport général de ce grand forum judiciaire qui s'est clôturé au cours de leur assemblée générale extraordinaire axée sur la restitution des travaux des États généraux hier au palais de justice à Kinshasa. Les magistrats promettent de porter plainte contre le rédacteur de ce rapport qu'ils qualifient de corrompu. Jeff Ngoy.
Nous n'allons pas nous laisser piétiner, même si nous sommes la grande mouette. Lance Edmond Issofa, président du CINAMAC, devant de nombreux magistrats furieux qui acclament.
Nous avons également avec nous les éléments audiovisuels de la plénière où on voit comment est-ce que nous avons voté en plénière, c'est-à-dire valider les résolutions de chaque catégorie. L'équipe rédactionnelle n'a pas tenu compte de cela. Quelle témérité. Et raison pour laquelle nous suggérons à l'Assemblée de pouvoir autoriser à ce qu'une plainte soit initiée contre les rédacteurs.
La restructuration du CSM et la suppression des visas des juges supérieurs sont les deux réformes qui fâchent les magistrats.
Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, c'est que nous sommes réunis non pas en constituante, nous sommes réunis pour pouvoir apprécier qu'est-ce qu'il fallait faire pour guérir la justice malade. Pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons dit, entre autres, la composition du CSM, mais il fallait toucher les immunités, les privilèges, les autorisations de poursuite, tous ces obstacles juridiques et réglementaires qui mettent à mal l'exercice de l'action publique. C'est ça qui donne l'impression à la population d'une justice à double vitesse.
Justice, Incremac, CINAMAC et CIMCO sont ainsi autorisés par leur assemblée à mener des actions par voie syndicale en saisissant le bureau du CSM, le ministre de la Justice et le magistrat suprême, puis par des poursuites judiciaires.
De leur côté, les agents de police judiciaire APJ évaluent positivement les travaux des États généraux de la justice. Hier, ils ont aussi organisé leur assemblée générale de restitution des résolutions des États généraux de la justice devant le perron du palais de justice. Ils étaient une vingtaine à saluer la réussite, selon eux, des États généraux de la justice. Selon l'officier de police judiciaire, cela a été une réussite à 90%. Pour quelles raisons ? Il s'explique au micro de Jeff Ngoy.
Quelle évaluation faites-vous?
En tout cas, c'est très positif. Une réussite à 90%. Même si on pouvait dire qu'il y a eu déjà des états généraux tenus en 2015 et que d'autres choses n'ont pas encore dû tenir. Mais cette fois-ci, on a vu qu'il y a eu agglomération de toute la corporation du corps. Puisque nous, les APJ, en 2015, nous n'étions pas. Mais grâce au Mineta, aujourd'hui, les APJ sont reconnus et de faire partie de cette corporation de justice que nous soyons comptés et puis prendre aussi la parole comme tout le monde.
Et quelle est la grande résolution qui a été prise que vous retenez en faveur des APJ?
C'est en fait cette réussite de reconnaître nos droits, ça c'est de nos droits, et puis le Conseil supérieur de la magistrature, qui demain va devenir le Conseil supérieur de justice, nous aussi les APJ, nous ferons aussi partie.
Autre réaction dans différents regroupements qui ont pris part aux états généraux de la justice. Le syndicat des magistrats pour la justice, pour sa part, salue la tenue de ces travaux et plaide pour la mise en application des recommandations prises au cours de ces assises. Ce syndicat appelle les magistrats à rester sereins en attendant la concrétisation de ces décisions qui, selon cette organisation, vont non seulement améliorer leurs conditions sociales, mais aideront aussi à une meilleure administration de la justice. Idi Bin Idi Hussein, président du syndicat des magistrats pour la justice, est au micro de Babel Mpongo Massimango.
Le syndicat des magistrats pour la justice, SMJ, salue la tenue des états généraux de la justice 2024. Il se félicite des recommandations formulées à la suite de ces assises qui vont dans le sens d'une réforme profonde et totale de notre système judiciaire. Le syndicat des magistrats pour la justice remercie les organisateurs de ces états généraux d'avoir associé les syndicats des magistrats à la rédaction du compte rendu lu à la clôture de ce grand événement. Il assure son soutien indéfectible aux actions de réforme. En attendant la mise en œuvre des recommandations de ces assises, le syndicat des magistrats pour la justice appelle l'ensemble des magistrats au calme et sérénité.
Autre nouvelle, la République démocratique du Congo renforce ses stratégies pour capter une grande partie de 150 milliards d'euros disponibilisés par l'Union européenne en faveur des pays africains. La première réunion de la Task Force RDC Union européenne mise en place à cet effet a été présidée hier à Kinshasa par le ministre Julien Paluku, son coordonnateur. Au cours de cette réunion technique et stratégique, il a instruit les experts d'accélérer l'élaboration des mécanismes permettant d'optimiser le positionnement de la RDC face aux opportunités offertes par Global Gateway. On écoute Julien Paluku dans ses propos recueillis par Alain Rumushinge.
Il était nécessaire que tous les experts des ministères concernés puissent être au parfum de la note conceptuelle pour avoir une compréhension globale de toute cette schématisation telle qu'est faite par le président de la République en vue d'élaborer ou de rassembler les projets parce que les projets sont déjà identifiés dans les niveaux ministériels. Mais également, nous avons associé la Fédération des entreprises du Congo, parce qu'en fait, c'est pour le secteur privé que le président de la République voudrait travailler. Il faut créer une classe moyenne, il faut créer une classe d'opérateurs économiques à même d'être autant compétitif que d'autres opérateurs à travers l'Afrique, à travers le monde. Et donc, cette première réunion de la Task Force a été très utile, parce qu'elle va nous permettre de dérouler un calendrier qui nous permettra, à l'horizon peut-être fin novembre 2024, de présenter un projet au niveau du gouvernement qui va retracer tous les aspects administratifs, financiers et opérationnels de manière à démontrer à la face du monde que la RDC est prête à capter ces financements qu'on appelle Global Gateway de l'Union européenne pour la panoplie des projets que nous avons.
Notez que plusieurs experts, dont ceux de la présidence de la République, de la primature, de plusieurs ministères sectoriels, ont pris part à cette réunion. Aussi, cette task force travaille sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa. Santé, en bref, au Congo central, le déploiement des équipes des vaccinateurs a débuté hier dans les zones de santé ciblées par la campagne de vaccination contre les maladies évitables par la vaccination, telles que la fièvre jaune, la rougeole, la poliomyélite et les tétanos. D'après le ministre provincial de la Santé, cette campagne qui sera lancée le 25 novembre vise à créer et à renforcer l'immunité collective de la population. Docteur Ovid Yobila invite par conséquent la population habitant les zones de santé ciblées à s'approprier cette vaccination pour se mettre à l'abri des formes graves de ces maladies. La campagne va durer 10 jours, soit du 25 novembre au 5 décembre, et va cibler les personnes âgées de 9 à 60 ans, 20 zones de santé sur les 31 que compte le Congo central, où les cas positifs de ces maladies ont été notifiés, sont concernés. Kinshasa, par où passent les services des voiries et drainage pour ne pas voir ce qu'est devenu le tronçon compris entre Arrêt-Landou, rond-point Mollard, sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, en passant par la prison centrale de Makala. Cette question, les riverains et usagers de cette voie se la posent avec amertume chaque jour. Ils disent regretter l'incapacité des services habilités à aménager cette bretelle. Billy Van Lutumba a visité cette contrée. Voici son reportage.
Où l'on pouvait voir et rouler sur de l'asphalte. On ne sait y voir aujourd'hui que boue mixée au détritus des légumes et autres déchets laissés délibérément par les marchands et passants. Le tout formant des bourbiers noirâtres au grand désarroi des tous, surtout en cette période pluvieuse.
La dégradation de cette route date de longtemps. Jusque-là, on n'a vu aucun lancement des travaux. Quand tu es ici pour aller au grand marché, tu vas devoir aller tourner jusqu'à la commune de Boum. Les bus et les motos évitent maintenant ce tronçon. L'état de cette route sont pire.
Environ 2 mois sont passés. Une lueur d'espoir naquit pour d'éventuels travaux, mais malheureusement, rien de concret jusqu'à présent.
Attends la réhabilitation effective de la route 24, la route de la Libération. Les autorités sont venues jeter des sables et caillasses. Jusqu'alors, pas d'amélioration. Les caniveaux sont bouchés. La bande piéton est occupée par les mamans maraîchères. La route est impraticable.
Parmi les conséquences de ce manque de réaménagement de ce tronçon, les motocyclistes communément appelés Wewa évitent carrément d'y rouler et prennent un chemin détourné passant par la commune de Bumbu, rendant le trajet plus long et plus coûteux pour les passagers. Nos tentatives de joindre les services provinciaux en charge d'aménagement de la voirie se poursuivent encore.
Actualité internationale. Le sommet du groupe des 20 G20 s'est clôturé officiellement hier à Rio de Janeiro au Brésil. Le président brésilien a remis le flambeau de la présidence au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Dans son discours, Lula a souligné l'importance de ce moment, rappelant que pour la première fois, chaque membre du G20 aura exercé la présidence au moins une fois.
L'invité.
Quand on parle de la situation de l'Est de la RDC, c'est clair qu'il y a une agression. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des projets par rapport aux discussions sur la situation sur le terrain. Ces propos sont de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, en mission au Nord Kivu récemment. Nicolas Berlanga salue l'évolution du processus de Luanda et invite la population à garder l'espoir d'un retour rapide de la paix. Nicolas Berlanga est avec Rosalie Zawadi.
Monsieur l'ambassadeur Nicolas Berlanga, bonjour.
Bonjour.
C'est votre 6e visite au Nord Kivu. D'abord, comment vous trouvez l'Est de la RDC que vous visitez régulièrement?
J'ai toujours des sentiments un peu contradictoires en étant à Goma. J'admire la beauté de la ville, l'activité qu'on voit dans les rues, la force de la jeunesse. Par exemple, ce week-end, ça a été avec le festival Amani. Et d'autre côté, quand on survole la ville et on voit les camps de déplacés autour, quand on suit l'évolution du conflit, de l'agression, et on voit comment petit à petit il y a des territoires agressés, et quand on entend les mouvements des populations, l'envie de déplacer, de retourner chez eux. Voilà, donc c'est un sentiment contradictoire, mais je préfère rester dans le positif, rester dans cette volonté de communication, de dialogue, d'arriver à des accords qui puissent mettre fin au conflit.
Et justement, dans un panel dimanche, vous avez dit soutenir les processus de Luanda.
Oui, l'Union européenne est très engagée derrière les autorités angolaises pour les accompagner dans tous les efforts qu'ils font et qu'il faut vraiment apprécier en faveur de la paix à l'est de la RDC. On respecte beaucoup cette initiative qui déjà a été mandatée par l'Union africaine, que le président de l'Angola a pris avec énormément de détermination. Et donc l'Union européenne ne fait qu'être en contact avec les autorités angolaises pour pouvoir accompagner ce processus. Je vais vous donner un exemple. Jeudi après-midi, je suis allé visiter le siège du mécanisme de vérification renforcé ad hoc, qui est un mécanisme au service des médiateurs, au service du président Lourenço de l'Angola. Et justement, ma visite a cherché à passer ce message de soutien et d'accompagnement. C'est très important que le président angolais puisse avoir à sa disposition ces mécanismes pour pouvoir vraiment avoir des informations fiables et crédibles sur la situation sur le terrain. Cette transparence, cette mise à jour en continu de la situation ne fait que pouvoir mettre de la réalité, la vérité dans la table des négociations et arriver à un accord qui soit durable dans le temps.
La population veut voir les concrets, voir la paix vite revenir. Pensez-vous qu'elle a raison d'espérer?
Vous savez, toujours on dit que la dernière chose à perdre, c'est l'espoir. Samedi dernier, il était prévu une réunion ministérielle à Luanda. Il y a des contacts qui se font au niveau technique. La réunion ministérielle qui a été reportée va avoir lieu normalement à la fin de cette semaine. Déjà, le fait qu'il y a des progrès par rapport aux discussions sur la situation sur le terrain, c'est déjà encourageant. Donc gardons cet espoir et espérons qu'effectivement, bientôt, le gouvernement congolais puisse annoncer aux populations déplacées, aux populations en détresse, des bonnes nouvelles qui puissent aboutir à une paix durable. Je pense que dans tous ces processus, ce qu'il faut garder, à notre avis, c'est les principes. Les principes que les solutions militaires jamais aboutissent à une réponse qui puisse s'insérer dans la durée. À penser que la République démocratique du Congo a toujours gagné, parce que la vérité est dans son côté, a toujours gagné à travers des accords dialogués, des accords politiques. Des accords qui introduisent des concepts de justice aussi par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Donc je plaide au nom de l'Union européenne en faveur de ces solutions négociées, en faveur de ces solutions de vérité, de sincérité, de justice. C'est ça qui va donner espoir, à notre avis, à la population. Pas seulement pour qu'ils rentrent et 6 mois après on est dans la situation, sinon vraiment pour avoir une paix durable. Écoutez, en Europe, on a eu l'expérience des nations qui se sont battues pendant des siècles, de la haine qui s'est installée parmi les peuples et que grâce au dialogue, grâce à la connaissance mutuelle, on a su surmonter pour créer ces beaux projets qui est maintenant l'Union européenne, un projet de paix où il n'existait pas de frontières internes, où la population, la jeunesse surtout, s'échangent, vivent ensemble et créent un projet d'avenir. Donc on croit beaucoup dans ce modèle et on essaye aussi de le passer aux autorités. Mais en réitérant qu'ici, quand on parle de la situation à l'est du Congo, c'est clair qu'il y a une agression et c'est clair dans quel camp elle est la justice.
Monsieur Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne à RDC, merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.